Bonsoir Aude Lavigne, on vous retrouve demain pour un nouveau carnet de la création. Bonsoir à toutes et à tous. La dispute. Ce soir, les arts plastiques. Ce soir, Anaël Pija et Yasmine Youssi se font face à notre affiche, The Color Line. Les artistes africains, américains et la ségrégation au musée du Quai Branly, Jacques Chirac, jusqu'au 15 janvier. Et spectaculaire, Second Empire 1852-1870 au musée d'Orsay, également jusqu'au 15 janvier. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi je souris. Nous évoquerons aussi plus rapidement la Jet Foundation à New York et puis quelques expositions du printemps de septembre à Toulouse. Vers 21h20, Lucille Como nous entraînera dans son petit salon pour débattre d'un sujet en lien avec le champ artistique dont nous parlons ce soir, et bien sûr encore des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des places de cinéma pour le film Le Cancre de Paul Vecchiali, sorti aujourd'hui sur les écrans. Je souris, Oui, à l'écoute de mon sommaire, Yasmine Youssi a replié ses petites fiches qu'elle avait étalées devant
mais
elle.
Vous le faites exprès, vous nous envoyez un programme et j'étale mes fiches pour que vous me les rebalanciez après.
Et vous avez changé.
Mais oui, quoi, on va parler de spectaculaire d'abord ?
Mais évidemment.
Oh, j'en étais sûre.
Et c'est vous tout de suite qui commencez. Non, je plaisante. Non, vous avez le temps de remballer vos fiches Color Line, de réétaler vos fiches. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Non, parce qu'il y en a une toute petite là, pour le tout petit bémol.
Non, la sixième, vous n'avez pas... Ah, le bémol, c'est la sixième.
Pour le tout petit.
Ben, on commencera par ça. Bon, mais de quoi parle-t-on, se demandent nos éditeurs. On parle d'une exposition qui se tient au musée d'Orsay, qui revient sur un moment d'histoire de France, le Second Empire, qui est un moment particulièrement mal aimé, il y a sans doute des raisons quand même, dans notre roman national. Que s'est-il donc passé dans ces 17 ans, 9 mois et 2 jours qu'a duré le Second Empire ? C'est un régime politique qu'on découpe souvent en deux phases. La première, les années 50, donc de 52 à 60, on dit que c'est l'Empire autoritaire et qu'ensuite ce serait l'Empire libéral. En gros, 1860 à 1870, pour Guy Cocheval, qui est le président du musée d'Orsay, commissaire général de cette exposition, citons les autres commissaires, Yves Badetz, Paul Perrin et Marie-Paul Vial, il nous donne une indication de leur exposition par le titre choisi, spectaculaire, Second Empire. Il faut dire qu'on savait faire la fête dans ces années-là, si l'on en croit les peintures, sculptures, photographies, dessins d'architecture, objets d'art, bijoux. On a beaucoup de choses différentes dans ce... Quoi, vous avez envie de prendre des bijoux là-bas,
ah ouais.
Yasmine ?
Les uns après les autres.
Bon, ben c'est pas
et l'éventail, enfin, surtout.
Je vous me ferai voir votre sac avant de quitter le studio. On commence avec Anaël Pija.
Oui. Alors, c'est effectivement une exposition qui sent la fête, qui parle de fête, mais une fête bien particulière, une fête qui sert le pouvoir politique. Je trouve que l'exposition est particulièrement réussie parce qu'elle est pleine d'esprit, en particulier dans la première salle, parce qu'en fait, on commence par une énorme gueule de bois et par vraiment les lendemains de la fête, à savoir un tableau de Meissonnier qui montre les ruines du château des Tuileries. C'est la fin de l'Empire et... Eugénie habite dans un hôtel rue de Rivoli et elle regarde les ruines de sa vie, en quelque sorte. L'exposition montre alors vraiment une relecture de ce régime qui, évidemment, a été très critiqué, on le sait, très décrié ensuite au moment de la République, pour sa dureté, pour le côté très autoritaire du régime, évidemment, pour ses aspects militaires aussi, des hauts, de certaines victoires, les guerres d'Italie, les guerres de Crimée, mais aussi des bas importants, la défaite du Mexique, la défaite de Sedan, par exemple. De tout ça, on ne sait pas grand-chose, il faut le dire. On
c'est
ne
sait le moins rien. Qu'on
c'était mon bémol.
On ne sait rien, on sait rien de l'Empire colonial.
Moi, ça mérite plus qu'une fiche, hein, on y vient.
On ne sait rien de l'Empire colonial.
La commune.
Qui s'étend de la Nouvelle-Calédonie au Sénégal. On ne sait rien de la censure en littérature et au théâtre. On ne sait rien de la spéculation financière autour des grandes constructions d'Haussmann à propos des expropriations. Et pas un mot non plus de la commune et de Sedan à la fin du régime. En revanche... Mais c'est pas vraiment le sujet de l'exposition. Donc au fond, ça m'a pas tellement gênée finalement.
Non, il faut vraiment bien l'assumer et
l'affirmer
quand
mais
même
l'exposition,
quand une exposition comme
le
celle-ci.
Le sujet de l'exposition, c'est une certaine société qui a les moyens de la commande artistique, qui a travaillé, qui a gagné de l'argent, qui le dépense et qui s'amuse. Et au fond, Napoléon III a un profil un peu particulier parce que il a fait un coup d'État, c'est un repris de justice, il a fait de la prison. Il n'a pas de grande victoire militaire à afficher au moment de son arrivée au pouvoir. Et donc, il a besoin d'afficher son pouvoir autrement. Et tout cela, ça passe par la fête. Et ça passe par la mise en place de formes d'apparat qui, au fond, ont été absolument figées à cette époque-là et demeurent exactement les mêmes aujourd'hui. Donc, en fait, ce que je trouve intéressant dans l'exposition, c'est qu'elle montre tous les paradoxes de cette époque, à la fois de dureté, mais d'extraordinaire plaisir que l'on sent vraiment, je trouve, dans l'exposition. Et puis, on voit quand même un certain nombre de choses, en dépit des silences sur certains sujets, qui constituent les bases de notre société d'aujourd'hui. L'exposition n'est pas tournée vraiment vers les artistes. C'est vraiment une exposition sur la société, qui est à la fois chronologique et thématique, et qui distille, je trouve, beaucoup d'humour comme je disais pour commencer, d'esprit au fil des salles. Alors, par exemple, donc il y a ce démarrage avec la gueule de bois, en gros. Il y a le côté très Scarlett O'Hara. On parlait des bijoux, on pourrait parler des robes, des éventails Yasmine, on peut parler des robes aussi, peintes par Winterhalter. Eugénie, c'est Scarlett O'Hara, c'est-à-dire qu'elle tombe amoureuse de l'empereur, elle mène une vie extraordinaire, et puis à la fin, il y a un portrait extraordinaire de Winterhalter dans lequel on la voit en Marie-Antoinette avec une robe jaune, avec des gros rubans de velours noir, et où elle est extrêmement mélancolique. Et au fond, je trouve que ce mélange de fête et de mélancolie est assez réussi dans l'exposition aussi. Et puis à la fin, c'est le désespoir total, et on termine sur le tableau de James Tissot, où on la voit en Angleterre avec son veuve, avec son fils qui va mourir quelques années plus tard. Il y a aussi dans les traits comme ça d'esprit de l'exposition que j'ai trouvé très réjouissante, dans cette société qui est très narcissique et qui accède assez vite à l'image de soi. On les voit tous en grand portrait, de soit intime, soit d'apparat, mais enfin, en tout cas un portrait très élogieux. Et puis on voit le grand opposant du régime, Victor Hugo, qui utilise exactement les mêmes filons que ceux à qui il s'oppose. Voilà, il y a tout un tas de choses. On peut parler de la mise en scène, de l'art aussi, et du côté laboratoire de l'exposition, en termes de regard sur l'art, avec cette salle fantastique
du salon,
qui est une tranche du salon de 1863, exactement reconstitué avec tous les tableaux à touche-touche par ordre alphabétique, c'est la fiacre du Second Empire, et un mur au fond qui se distingue par le gris par rapport au rouge, avec le déjeuner sur l'herbe qui lui fait partie du salon des refusés, c'est l'année du salon des refusés, et ça révolutionne le regard, la proximité des tableaux académiques à côté du déjeuner sur l'herbe révolutionne, je trouve, la manière dont on voit ce tableau.
Voilà, pour une longue introduction, comme Anaëlle Pilger en a les secrets, parce qu'elle veut tout épuiser dans sa première prise de parole, elle craint toujours
non,
que je ne redonne pas.
Mais non, j'ai encore beaucoup de choses à dire.
Mais laissez-en un peu d'abord à Yasmine, avec un tout petit bémol, là, je vous enlève cette fiche.
Non,
là, je vous la prends. Non, je vous prends la quatrième.
Là, vous allez me perturber.
perturbée.
Bon, Yasmine, vous avez fait la fête, vous êtes cru, quoi.
Ah ouais.
Vous êtes cru.
Avec mon éventail.
Ouais.
Non, écoutez-moi, cette exposition, je trouve qu'elle porte très bien son titre, spectaculaire, parce qu'elle est spectaculaire par sa profusion.
Elle traite du Second Empire, d'où le titre.
Oui. Non, mais elle est spectaculaire par sa scénographie, elle est spectaculaire aussi par la manière dont elle nous raconte cette histoire. C'est vrai que moi, c'est franchement pas quelque chose, c'est pas une période qui spontanément, ni une exposition qui spontanément me donne envie de courir pour la voir, et ça m'a fait un peu le même effet que Prostitution ou Prostituée, je ne me souviens plus du titre exact, l'année dernière on y allait un peu en traînant des pieds,
bon,
et tout d'un coup oui, vous y couriez
et il y avait de quoi,
y avait
magnifique quoi.
Elle était magnifique,
l'image de la prostitution
absolument, et là c'est là, pour moi j'ai retrouvé ce même plaisir d'être embarquée dans une histoire, de découvrir tout plein de choses, parce que, excusez-moi, mais c'est une partie du roman national. Autant je peux vous réciter par cœur celui du XXe siècle, autant cette partie-là était un peu oubliée dans mon esprit.
Oh, oui, c'est toujours la fin du mois de juin.
Elle est très occultée.
La fin du mois de juin.
Oui, à l'école, c'est toujours à la fin du mois de juin qu'on va voir le Second Empire.
Vous avez des souvenirs précis.
Bon, c'est un temps où j'enseignais l'histoire géo dans une boîte à bac, c'est vraiment, ça ne m'a pas marqué plus que ça.
Enfin, ah oui.
Ouais. Dans une autre vie. Ah. Et j'ai été complètement entraînée, je me suis retrouvée propulsée au cœur d'une histoire, au cœur d'un monde que j'ai trouvé finalement très très proche du nôtre. Très très proche du nôtre pour beaucoup de choses, parce que on peut vraiment tracer tracer des parallèles. Regardez ce côté spectaculaire dans l'art, quand vous voyez aujourd'hui, en même temps, on sent que c'est un art qui arrive en bout de course, et Anaëlle parlait très justement de cette salle consacrée au salon, avec aussi bien des... comment ça s'appelle, la toile orientaliste de Guillaumet, je crois que c'est Prière au Sahara, avec la Vénus de Cabanel qu'on a envie de croquer, et avec effectivement au fond, pour le salon des refusés, le déjeuner sur l'herbe qui fit scandale, parce que nudité gratuite, parce que tout ce que vous voulez. On voit avec Cabanel, on voit avec Guillaumet, on voit qu'on arrive au bout de quelque chose. Et moi, je suis persuadée qu'aujourd'hui, on arrive en tout cas en Occident, vraiment au bout de quelque chose et d'un art qui n'a plus rien à dire et qui se répète. Et qui a besoin de 3 tonnes de discours pour expliquer qu'il n'y a plus rien à expliquer, en fait. Donc ça, je l'ai ressenti de manière très forte. C'était, comme le soulignait notre génial DA à Télérama, Laurent Soskov, c'était aussi déjà à l'époque du sample. Et où on samplait, comme ça, le néo gothique, quand vous avez le style néo-grec, il y a une salle qui est entièrement consacrée par exemple à la villa de Napoléon Jérôme. Aujourd'hui aussi, on est constamment en train de revisiter le style des années 50, enfin tous les styles, quelle que soit la matière, que ça soit en mode, que ça soit en design, que ça soit ce que vous voulez, vous êtes vraiment là. Ce qui marque aussi vraiment beaucoup cette époque-là, c'est une bourgeoisie qui s'impose avec de nouvelles fortunes. Elle me fait penser aujourd'hui aux nouvelles fortunes et à cette jet set issue du numérique et de ces fortunes-là. C'était à l'époque le moment des portraits. C'était l'explosion du portrait. D'ailleurs, on en avait les peintres. Il y a des peintres qui se lamentaient, se disaient il n'y a plus de grand art, il n'y en a plus que pour les portraits. Quand vous voyez aujourd'hui, et de très grands portraits, quand vous voyez aujourd'hui l'engouement pour les selfies, ça me renvoie exactement à ça. Donc pour toutes ces choses-là, moi j'ai trouvé cette exposition passionnante, vraiment. Et puis il y a quelque chose quand même. On est obligé de parler de la scénographie d'Hubert Le Gall, qui est éblouissante. C'est-à-dire que il construit quelque chose. Je suis sûre que cette exposition, vous enlevez la scénographie, vous mettez les pièces les unes à côté des autres, vous n'aurez pas le même résultat. C'est-à-dire que la scénographie fait 50% de la réussite de cette exposition-là. C'est une scénographie 50, très théâtrale. Il nous prend par la main, il nous raconte une histoire, il la donne à voir, il explique le propos en quelques salles très très bien pensées. On revient à la salle du salon. Enfin, vraiment, on est dedans. Et puis, au milieu de tout ça, il y a... Alors, vous connaissez, vous savez comment je les appelle, il y a quand même un nombre incalculable de croutasses. Il faut appeler un chat un chat. Mais finalement, c'est pas grave.
Parce que c'est l'ambiance qu'on nous fait ressentir, c'est ce qui se vivait à l'époque. Et au milieu de tout ça, il y a quand même des choses qui valent qui valent vraiment qu'on se déplace. Au milieu des manets qu'on voit, enfin moi, il y a un petit Degas de la, un portrait de la, c'est la princesse, la comtesse, elle était quoi, Madame de Metternich qui organisait les fêtes, et réalisé à partir d'un petit d'une petite photocarte de visite là que faisait Disdéry, qui est très très beau. En photo, il y a les portraits de Legret. De Legret, on connaît essentiellement les marines. Et là, vous avez un portrait de génie sur son prie-Dieu, qui est aussi tout en mélancolie, tout en douceur, tout en qui est très très beau. Vous avez les vues de Paris, qui sont assez impressionnantes. Vous voyez Paris changer. Il y a vraiment. Et puis alors moi, cet éventail, vous me le ramenez quand vous voulez.
Oui,
les plumes d'autruche qui a été offert par les dames israélites d'Alger, je crois.
Je ne peux pas vous le remettre tout de suite.
Ah, s'il vous plaît.
Mais
je le mérite.
Et une autre dimension qu'on n'a pas encore évoquée, qui est présente aussi dans la dans toutes les manifestations annexes de cette exposition, j'en citerai quelques-unes, c'est tout ce qui est le spectacle.
Oui.
Quand on dit spectaculaire, Second Empire, il est spectaculaire. Parce qu'effectivement, pour tout ce que vous avez dit, mais c'est tout ce qui est la vie des théâtres, c'est l'Opéra Garnier à ce moment-là, c'est enfin tout ce qui est voir et être vu, ce qui est une des thématiques de cette exposition qui est très importante aussi, Annaëlle Pigeat.
Absolument, on voit vraiment naître en fait le genre de l'opérette. Il y a évidemment l'Opéra Garnier qui fait partie de ces reconstructions de Paris. Absolument spectaculaire.
Ah oui, l'avenue de l'Opéra.
L'avenue de l'Opéra, mais tout, Saint-Augustin, ouais. La rue des Écoles, enfin bon, etc. Mais pour revenir au spectacle, il y a aussi le genre du cirque, le genre des marionnettes qui voit le jour à cette époque-là, et puis le genre du café-concert. L'exposition est très riche de ce point de vue-là aussi. Il y a des affiches de Jules Chéret, le graphisme aussi qui se développe abondamment. Il y a des dessins de Daumier à hurler de rire, absolument formidable. Le Bataclan est construit à cette époque-là. Et au fond, il y a une très grande gaieté en fait qu'on ressent dans l'exposition et qui fait partie de la fête aussi.
Alors qui conserve, il faut le rappeler quand même, une part de français absolument négligeable.
Parce que les autres, on a l'impression que tout le monde vit bien, tout le monde est heureux.
Quelques centaines, peut-être quelques milliers de personnes qui sont concernées par ça.
Voilà,
on s'étonne de ne pas voir Kim Kardashian dans un des tableaux, mais elle aurait évidemment trouvé sa place, ligotée ou pas, Annaëlle.
Non, j'allais parler d'un autre aspect, c'est en termes de, parce qu'au fond cette époque on la connaît assez mal, comme vous le disiez Yasmine.
C'est à cause du mois de juin.
À cause du mois de juin. Alors il y a une exposition, il y a une exposition en 79 au Grand Palais qui était la dernière grande somme sur le sujet.
Vous n'y étiez pas.
Je n'étais pas.
Techniquement, c'est pas possible.
Je n'y étais pas, mais on m'a raconté justement que cette exposition était beaucoup plus sobre, notamment en termes de scénographie.
Ouais.
Je trouve que cette exposition-là, aussi par sa mise en espace, souligne un paradoxe assez intéressant qui est à la fois le côté extraordinairement matérialiste de cette société, parce qu'il y a aussi une chose dont on n'a pas parlé, c'est les arts décoratifs, qui sont montrés à travers une sorte de, pas vraiment reconstitution, mais d'évocation, disons, très adroite, très habile du salon, des Expos Universelles, pardon. Et où on voit la naissance de toute l'industrie des marques qu'on connaît encore aujourd'hui, de Baccarat, de Christophe, de tout ça. Tout ça est extrêmement bien fait. Il y a des photos du montage d'exposition universelle absolument réjouissante. Mais donc, on voit, et il y a cette phrase fameuse aussi de Taine qui s'étonne de ce que la foule se soit déplacée pour voir des marchandises, qui est citée par Benjamin. Et en fond, je trouve que l'exposition montre assez bien le paradoxe d'une société totalement matérialiste et en même temps assez poétique, parce que dans tout ça, il y a quand même une infinie poésie. Et vous parliez Yasmine, très justement, d'aujourd'hui, de notre, enfin, nous qui suivons la société du spectacle. Je ne sais pas si aujourd'hui, on a la même poésie. En tout cas, elle se trouve dans d'autres endroits, je pense.
Yasmine aussi, pour finir.
Oui, pour finir, moi je voulais dire que c'était quand même une exposition assez clé pour le musée d'Orsay à plusieurs titres. D'abord parce que le musée d'Orsay, on le réduit trop souvent aux impressionnistes et que le musée d'Orsay, c'est le musée du 19e et qu'on voit que tout part de là. C'est vraiment le creuset de tout ce qui va se faire après. On voit les impressionnistes émerger, on voit tout ça. Je trouve aussi, on arrive bientôt à la fin du mandat de Guy Cocheval. Et finalement, cette exposition, c'est peut-être la quintessence de ce qu'il a voulu faire à Orsay, dans le sens où il a été vraiment, lui, il a accentué ce côté où on montre aussi bien la peinture que les arts décoratifs, que la photo,
absolument.
Où on donne à voir une ambiance, on donne à voir l'effervescence d'une époque à travers toutes les composantes de la création.
C'est son côté anglo-saxon. Hein,
c'est son côté anglo-saxon.
Travailler au Canada.
Et en tout cas, il l'a fait à Orsay. Mm-hmm. C'est très réussi et on le voit là dans cette exposition. Ça apparaît à merveille et on voit vraiment la force de cette proposition qu'il a fait pour le musée et qui j'espère restera après son départ.
Renal Pijat.
Et aussi le fait qu'il y ait des prêts extraordinaires dans cette exposition, Madame Moitessier par exemple, Grand Tableau Dingue, mais que cette exposition c'est aussi le cœur des collections du musée d'Orsay.
Mais oui.
Donc pour son 30e anniversaire, en fait, le musée d'Orsay nous montre ce qu'il est vraiment et je trouve ça assez intéressant.
Oui.
Spectaculaire Second Empire, c'est le titre de cette exposition qu'on peut voir jusqu'au 15 janvier. Il y a un catalogue qui est publié pour l'occasion, coédité par Orsay et Skira. Et puis beaucoup d'événements, 40 événements autour de l'exposition, des spectacles, des concerts, des débats, des films, des balles, notamment un dîner avec Jacques, l'opéra bouffe d'après Offenbach, et encore plusieurs représentations le 6 octobre, le 8 octobre, le 9 octobre. C'est un spectacle qui est produit par l'opéra comique et on y entend notamment Yann Beuron ou Jean-Sébastien Bourg. Enfin, une très belle affiche pour ce spectacle. Et puis d'autres choses, des films aussi. On n'a pas souvent l'occasion de voir sur grand écran Nana de Jean Renoir ou L'histoire d'Adèle H de François Truffaut. Donc ce sont des films qu'on peut voir aussi à l'auditorium du musée d'Orsay. Bon, il y a énormément de... Il y a des concerts, récital de Marie-Nicole Lemieux, de Carine avec Delphine Hédon aussi. Beaucoup, beaucoup de choses autour de cette exposition, comme aussi le fait très régulièrement et fort bien le musée d'Orsay.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Nous parlerons tout à l'heure, vous pourrez prévoir vos fiches, de l'exposition de Color Line au musée du Quai Branly Jacques Chirac. Nous évoquerons aussi la Jet Foundation et le printemps de septembre. Avant cela, suivons Lucille Comeau dans le Petit Salon. Salon ou petit boudoir, Lucille, puisque ce soir, nous allons parler du pénis de Saint-Gilles.
Tout à fait. Non pas du Saint-Gilles, je n'ai pas d'informations à ce propos. Il y a une dizaine de jours, à Bruxelles, est apparue sur un mur une fresque d'environ 5 mètres sur 2 en hauteur, représentant un grand sexe masculin au repos dans des tons gris-rose sur fond noir. On ne peut vraiment pas la manquer, elle occupe un pan de mur entier dans le quartier très fréquenté de la barrière Saint-Gilles. Alors le dessin est réaliste, le très fin, le dessin aurait été réalisé en une seule nuit et n'a pas été revendiqué. Ce n'est pas la première fresque de ce type qui est apparue ces derniers mois dans la capitale belge. On peut toujours voir Place Stéphanie, une scène de masturbation féminine et une scène de pénétration rue des Poissonniers, deux fresques qui sont appelées à rester. Mais le pénis n'aura pas cette chance, il va bel et bien disparaître, à l'initiative du collège communal de Saint-Gilles qui a statué après quelques jours de débat et a décidé que la fresque devrait disparaître dans les semaines à venir. Ce contre l'avis de la municipalité de Bruxelles et du gouvernement belge qui ont déclaré que la fresque était une œuvre d'art et en tant que telle devait être respectée. Il y a une pétition qui a recueilli près de 2700 signatures et qui réclame la sauvegarde du phallus géant de Saint-Gilles. Alors la ville de Bruxelles, qui par ailleurs fait nettoyer tous les jours des dizaines de dessins et de graffitis, avait décidé de sauver le dessin rue des Poissonniers au titre que, je cite, « elle se situe en hauteur et que c'est donc une fresque et non pas un graffiti ». Étrange distinction qui laisse entendre que le choix de conserver ou non une œuvre illégalement peinte dans l'espace public dépend de la hauteur de sa réalisation. Alors l'affaire du pénis de Bruxelles pose la question du street art, entre guillemets, et de son encadrement. Comme dans la plupart des villes européennes, il est interdit. Mais en fait, chaque cas, on le voit là, donne lieu à des débats et des issues différentes. Par ailleurs, de plus en plus Deux lieux sont dédiés, on pourrait dire cédés au street art. Les artistes sont alors conviés à venir exprimer leur talent légitime, cette fois sur des façades plus ou moins faites pour eux. Le Collège Saint-Gilles a d'ailleurs l'intention de réserver ce fameux pan de mur, une fois nettoyé, à un ou plusieurs street artistes, en accord avec les propriétaires et les riverains. Ce qui pose la question de la démarche même de cet art, dont l'éventuel intérêt repose sur son caractère buissonnier. La question de savoir si l'œuvre a le droit de cité est totalement liée à la valeur artistique de l'œuvre en question. Il est intéressant d'entendre que dans les micro-trottoirs réalisés à Saint-Gilles par des journalistes, les passants ne se posaient absolument pas la question de la légalité ou même de la légitimité du dessin, mais plutôt la question suivante: est-ce qu'un sexe masculin au repos représenté ainsi de manière ultra-réaliste, c'est beau ou c'est pas beau?
Oui, et puis la question de... ça range pas, parce qu'il y a un anus qui est apparu aussi en haut d'un immeuble de Bruxelles hier ou avant-hier. Là, je crois que le maire quand même de Bruxelles a dit qu'il fallait pas que sa ville devienne la capitale de l'art pornographique ou une déclaration de cet ordre-là. Bon, encore une fois, une question à prendre par où l'on veut. Annette Pijard. Oh, oui, Yasmine.
Pour dire la vérité.
Si prévisible.
Ni par devant, ni par derrière.
Pour dire la vérité, j'ai pas l'impression. J'étais un peu étonnée que la ville de Bruxelles vole au secours de cette œuvre et souhaite la conserver. Je n'ai pas le sentiment que son effacement prive l'histoire de l'art d'un grand morceau
d'art.
De castration, je crois, à parler là.
Absolument.
La ministre.
Absolument, absolument. Ouais. Donc, bon, la situation ensuite est évidemment assez compliquée. Alors, si on ne se lance pas tout de suite dans la définition de ce que c'est qu'une œuvre d'art, ce qui peut-être nous entraînerait un peu trop loin dans la nuit, peut-être peut-on rappeler qu'il existe une législation. Alors, je suis évidemment pas juriste, mais je crois que le principe d'un graffiti, c'est que quand il est sur un mur dont le propriétaire n'a pas donné son accord, il est illégal. Ça me paraît assez simple. La hauteur, j'avais lu des choses un peu étonnantes
aussi. Ça nous
dépasse. J'avais lu que les autorités bruxelloises n'avaient pas les moyens, en fait, de faire effacer l'œuvre. C'était trop cher de monter quelqu'un là-haut. Bon. Donc, le principe de la légalité, voilà, je trouve ça un peu bizarre. Ensuite, il y a une autre chose, c'est que le principe, comme vous l'avez dit, Lucille, le principe même du graffiti, c'est de jouer au chat et à la souris et de se trouver dans un jeu avec la légalité. Je dirais même... peut-être que l'effacement, ça fait partie de sa vie, et que la dimension éphémère d'une telle œuvre fait peut-être partie de son intérêt, de sa poésie éventuellement, et en tout cas que la part de risque fait partie intégrante d'un projet de ce genre. Donc ensuite, on assume. Je suis assez réservée sur tous ces espaces aménagés. On en a vu beaucoup à Paris. Voilà, il y a eu au Palais de Tokyo l'ASCO Project, il y a eu très tôt, à partir de 2001, je crois, ou 2003, le mur dans le 11e, à l'initiative de Jean Faucheur. La Tour 13, évidemment, le Grand 8 à Malakoff. Je crois que même ce week-end, il y a une chose qui s'appelle Art 42 qui a ouvert pendant la nuit blanche dans l'école de Xavier Niel, dans le nord de Paris. Mais je vois pas bien l'intérêt de ces espaces fermés si on parle du street art, qui est censé aller de pair avec une forme de liberté, de clandestinité. Qui... Et évidemment, c'est le marché qui...
C'est le marché qui plante ses graines. Je crois que c'est pas autre chose. Moi, c'est ça ce qui me gêne beaucoup avec le street art et ce que c'est en train de venir. C'est-à-dire que d'une forme d'expression qui est née aux États-Unis, à New York, beaucoup sur les rames de métro. Et il faut imaginer dans une ville à l'époque en faillite ce que c'était vraiment en décrépitude, moche, sale, ce que c'était que ces traînées de couleurs qui passaient à la vitesse de l'éclair dans la rue. Bon, ça, on part de là quand même. Et là, maintenant, effectivement, avec toutes ces galeries qui se mettent au street art...
ce qui est en soi une absurdité.
Une absurdité, une hérésie avec des œuvres qui coûtent de plus en plus cher. Pour moi, c'est finalement ce côté, c'est le bourgeois qui s'encanaille à bon compte. C'est vraiment, oh là là, on a l'impression d'être hyper d'avant-garde ou hyper branché parce qu'on va acheter quelque chose qui vient de la rue.
Oui, mais alors pour le coup, le pénis de Saint-Gilles, on pourrait dire qu'il revient.
Le pénis
pas
de Saint-Gilles, il revient.
Du monde,
il revient.
Du street art,
oui, il revient à l'origine. D'abord, c'est le vrai geste. Le pénis, il pose aussi la question de la nudité dans la ville. Je pense que c'est ça. C'est une question qui est
posée, qui est légitimement posée. C'est-à-dire que quand on voit les gens qui sont choqués par le pénis, c'est plus choquant de voir un kiki au repos que de voir des femmes nues ou les seins à l'air.
Regarder les kiosques des journaux.
Voilà, exactement. Ou des femmes les seins à l'air pour vendre, je sais pas quel, ce qui remplit quand même les pubs, les affiches de pub. Donc ça repose cette question-là. C'est pas que je trouve l'œuvre particulièrement réussie ni que je voudrais l'avoir chez moi, loin de là. Elle a au moins ce mérite-là et de reposer la question du street art et du street art aujourd'hui, quoi.
Lucille Como avant Anaëlle.
Il me semble qu'il y a quand même une forme de paradoxe dans l'époque actuelle à propos justement du street art, c'est-à-dire qu'il intègre en effet l'institution et les galeries, etc. Mmh. Et en même temps, là, dans l'actualité, il y a aussi cette histoire de Monsieur Chat, donc ce fameux street artiste qui peint des chats à Gare du Nord, qui risque quand même 3 mois de prison ferme requis contre lui, qui est une peine inédite depuis les années 90 dans ce type de délit, entre guillemets, pour avoir dessiné un chat, je crois que c'est à Gare du Nord, dans un tunnel de la Gare du Nord.
Oui, au fond, dans l'affaire bruxelloise, on peut dire d'une certaine manière que chacun est dans son rôle. L'artiste fait l'artiste, le collège Saint-Gilles va effacer le truc. Bon, la ville de Bruxelles, c'est un peu plus bizarre, mais au fond, pourquoi pas? On peut avancer des arguments politiques, comme vous le disiez, Yasmine. Il y a d'autres situations qui sont en effet plus compliquées et où finalement les rôles se complexifient. Un autre exemple étant l'exposition de JR chez Perrotin l'année dernière, si je ne me trompe pas. Donc JR qui a commencé dans le domaine du street art et qui se retrouve dans une des galeries les plus lancées de la scène artistique parisienne, avec des fausses palissades et des sortes de reconstitutions, avec un ballet, une vidéo faite à partir d'un ballet avec l'Opéra de New York, si je ne me trompe pas, enfin le ballet de New York plutôt, d'une manière délirante, enfin, et où là on ne sait vraiment plus où donner de la tête.
Au niveau du simulacre, vous voulez dire?
Absolument, oui, exactement.
Et par ailleurs, on a aussi des collectionneurs qui rachètent des murs par Banksy.
Les Banksy qu'on va découper pour les revendre. Enfin, c'est vraiment c'est une aberration, quoi. Le marché a repris ses droits et puis voilà. Mais moi, ce qui m'énerve dans cette histoire, c'est ce sentiment que les gens achètent ça pour se donner l'impression que on s'encanaille à bon compte et c'est agaçant.
Agaçant. C'est le mot de la fin concernant ce petit salon ce soir.
Il semble.
On parlait de New York, on y retourne tout de suite avec Anaëlle Pigeon, puisque c'est l'un des recommandations de nos critiques. Ce soir, vous nous parlez de la Judd Foundation.
Oui, la maison de Donald Judd à New York, dans Soho, que j'ai eu la chance de visiter récemment. J'ai rarement eu à ce point l'impression qu'une maison ressemble à l'artiste qui l'a habité. Et j'ai rarement aussi eu l'impression d'un bâtiment habité par des objets aujourd'hui. Alors, c'est la visite de ce bâtiment, donc, qui est un immeuble de 5 étages au coin de 2 rues de Soho, dans un quartier aujourd'hui envahi par les boutiques de mode de grand luxe, est une sorte cette visite est une sorte d'expérience. Alors, tout est fait pour, c'est-à-dire qu'on arrive en nombre très limité, il faut réserver longtemps à l'avance, et on est obligé de passer du temps avec une conférencière qui vous promène, mais qui ne parle pas tellement. Simplement, il faut passer du temps. Et au fond, c'est assez utile d'expérimenter, de regarder en fait lentement tout ce qui se passe dans cet endroit. Donald Judd achète la maison en 1968. Il a 40 ans, ça commence à aller bien pour lui. Et c'est une ancienne usine textile qui est en extrêmement mauvais état. Il a écrit un très beau texte sur ce bâtiment qui dit bien l'importance qu'il lui accorde, dans lequel il raconte que Armand aurait pu acheter cet endroit et le laisser en l'état, ça aurait été parfait. Faisant référence évidemment à ses accumulations et à l'exposition du plein qu'il a fait chez Riscler à Paris quelques années plus tôt. Dans cet endroit, Donald Judd va beaucoup travailler. Il y a une lumière absolument extraordinaire, puisque toutes les parois, quasiment, enfin de l'angle de la rue, sont des parois de verre. Juste en face, il y a la Earth Room de Walter de Maria. Il a beaucoup travaillé le bâtiment, au sens où, donc ce sont 3 plateaux. En fait, tout le bâtiment ressemble, 5 plateaux, pardon. Tout le bâtiment ressemble à une grande œuvre de Donald Judd. Vous savez, ces stacks, les sortes de carrés de matière qui sont fixés au mur. Donc à chaque étage, il y a une fonction, manger, dormir, travailler. Ce sont des grands espaces ouverts.
Il manque deux.
Oui, parce qu'il y a le rez-de-chaussée qui compte pour un et il y a un étage en haut qui n'est pas accessible aux visiteurs.
Ouais, là, on peut faire différentes choses peut-être. D'accord. Non, mais soyons complets.
Non, justement, parce que la chambre, c'est en haut. Là, on voit tout. Alors, si on commence par le haut, justement, on arrive dans une pièce totalement baignée de lumière avec un immense Dan Flavin, parce qu'en fait, on voit la maison et on voit les meubles qu'il a construits, les échanges de meubles qu'il a fait avec Alvar Aalto, donc tout ça, c'est formidable. Mais au fond, il a aussi acheté cet endroit pour y montrer son œuvre, parce qu'il considérait que les musées ne montraient pas assez bien son travail et qu'il fallait qu'il le fasse lui-même. Son œuvre, mais aussi les œuvres d'autres artistes, parce qu'il a fait énormément d'échanges, aussi des cadeaux. Donc dans sa chambre, si on part toujours depuis le haut dans ma visite, il y a un immense Dan Flavin en néon le long de la fenêtre, absolument spectaculaire. Il y a la In Advance of the Broken Arm de Marcel Duchamp, qui est une des premières œuvres faites par Duchamp à New York, donc c'est assez intéressant. Il y a un tas d'artistes, enfin il y a quelques artistes en tout cas, que l'on voit très peu par ici, que pour ma part j'ai découvert, comme par exemple David Novros, un peintre abstrait, ou Lucas Samaras, qui a fait une boîte un peu avec une inspiration de Joseph Cornell, mais pas vraiment, une boîte avec des petits graviers qui est fermée, dans laquelle sont plantés des couteaux et des crayons. On ne peut pas l'ouvrir. C'est un objet qui est posé à côté de son lit. C'est extrêmement mystérieux. Le lit est une sorte d'immense matelas posé par terre, c'est tout. Quand on regarde la pièce, le parquet est fait de bois, mais au plafond, il y a le même bois qui est repris. À l'étage en dessous, pareil. Le sol est en plâtre et le plafond est en plâtre. Il y a des lignes d'ampoule au plafond, qui dessine aussi une sorte d'œuvre de... Enfin, c'est pas du tout une œuvre, bien sûr, mais enfin, qui sont extrêmement travaillées. Alors, il y a dans tout ça, il y a un petit cube de Larry Bell, enfin, il y a des tas de merveilles. Il y a évidemment des œuvres de Donald Judd aussi. Il y a un tableau de Stuart Davis absolument formidable, là aussi, qu'on voit très peu ici. On va en parler, mais il y a une expo Whitney au même moment, mais tout ça, c'était pour moi des grandes réjouissances de voir tout ça. Il y a... Dans tout ça, l'endroit ouvert en 2013, c'est ces enfants qui ont failli perdre l'endroit et qui ont réussi à l'ouvrir au public. Il y a un côté reconstitution qui est un peu glaçant de temps en temps quand on voit les couteaux posés sur la cuisinière en ligne. C'est un peu excessif, mais on respire quand même de manière assez passionnante cet endroit. Et puis très vite, à partir de 1974, si je ne me trompe pas, il trouve qu'en fait c'est trop petit. Et il part à Marfa, au Texas. Et là, c'est une autre histoire.
Et il faut réserver très longtemps à l'avance ou pas? Il faut vraiment prévoir.
Il faut un peu réserver, oui. Sur le site internet, il y a plusieurs semaines d'attente.
Bon, sur le site de la Judd Foundation, voilà. Pour vivre la même expérience que vous, Anaëlle. Vous donnez très envie, en tout cas. Yasmine aussi, vous vouliez revenir sur le printemps de septembre. Revenir, parce qu'on en a déjà parlé dans cette émission il y a deux semaines, tout juste, me semble-t-il. Avec quand même quelques œuvres ou artistes qui vous ont marqué.
Oui. Moi, d'abord, c'est vrai que j'ai été très heureuse de retrouver le printemps de septembre tel qu'il était à l'origine, parce qu'on a quand même eu des années de ratage assez fulgurantes. Je parle là notamment de l'année où Paul Arden était directeur artistique. Je pense que c'est le pire de ce qu'on ait jamais vu. Des années de tâtonnement et des années sans d'ailleurs, parce que là maintenant ça revient sous forme de biennale, vous l'avez dit. Et là on retrouve un peu ce qu'il y avait de meilleur dans le printemps de septembre. C'est un portrait de l'époque. Et moi, pour moi, il s'est cristallisé. Il y a plein d'expos super, mais vraiment autour de trois vidéos dont je voulais parler, qui m'ont beaucoup marqué, et trois vidéos qui, même si elles ne sont pas exposées au même endroit, se répondent, elles traitent toutes de la musique. Alors, il y a une première, c'est celle de Ragnar Kjartansson. Voilà. Voilà, que j'avais, moi, découvert au Palais de Tokyo.
Magnifique exposition.
Oui. Et là, elle est exposée au Théâtre Garonne avec celle de Stan Douglas. Alors, celle de voilà, je l'appelle
Ragnar.
Elle est éblouissante de virtuosité, parce que c'est dans un manoir du 19e, sur les bords de l'Hudson, du côté de New York. On a 10 musiciens isolés dans chacune des pièces, mais connectés par des casques, en fait, qu'ils ont sur les oreilles et qui jouent un même morceau, et chaque écran en fait donne à voir un des musiciens dans une pièce. Il y en a un qui est dans la salle de bain, l'autre qui est dans le salon, l'autre, enfin voilà, c'est assez éblouissant d'harmonie. Il y a une osmose là-dedans, il y a quelque chose de vraiment magnifique. Enfin, pour moi, c'est de l'ordre de... C'est virtuose ce qu'il a réussi avec ça. Juste à côté, vous avez une autre vidéo de Stan Douglas qui nous propulse dans le New York des années 70. Qui s'appelle Luanda Kinshasa, qui restitue le studio de Columbia Records dans ses moindres détails, qui est une réflexion aussi sur les racines afro-africaines-américaines, en fait, de la musique, de la scène musicale des années 70, hein, puisque c'est de l'afrobeat. Y a tout y est, c'est la reconstitution est vraiment géniale, que ça soit les coupes afro, que ça soit les lunettes, les pantalons en jersey, sur lesquels on ne reviendra pas.
Là, vous n'en voulez pas. L'éventail, oui, le pantalon en jersey, non.
Ah oui, l'éventail du 19e, moi, il me va très bien.
Mais le pantalon en jersey,
non. Non, le pantalon en jersey, non, sans façon.
Bon, on verra ça dans quelques années si ça revient à la mode.
Mais il y a cette revendication des racines qui est vraiment très très forte qu'on voit là, et elle renvoie directement à cette manière qu'ont les Américains depuis toujours de traiter de la question raciale, de la question post-coloniale aussi, qu'on n'arrive pas à aborder en Europe, on y vient en France encore moins qu'ailleurs, mais qu'on voit là. Et enfin, ça c'est des vidéos, c'est des œuvres pour lesquelles il y a eu beaucoup de moyens, pour vraiment l'image est parfaite, point de vue esthétique, enfin, tout est superbe. Et puis il y a la vidéo de Vincent Missens, qui est belge, qui a été faite avec beaucoup moins d'argent, qui esthétiquement est beaucoup moins chiadée et probablement, qui pour moi des trois est la plus forte, même si elle répond aux deux autres. Parce que pour lui, pour sa vidéo, il a retrouvé en fait un membre de l'international situationniste du Congo Kinshasa, qu'on appelait à l'époque le Zaïre, et qui en 1968, moi je ne le savais pas, en 68, il y avait eu des émeutes et il y avait une révolte contre Mobutu, qui avait été réprimé dans le sang. Et lui, à ce moment-là, pour faire le lien entre le peuple et les masses et vraiment les situationnistes, il avait inventé une chanson. Et tout le film, c'est nous mène vers cette chanson. Donc pendant 35 minutes, on va vers cette chanson, lui qui raconte l'histoire, qui est cette chanson qui va être interprétée par un orchestre de femmes. Et autant vous les voyez chez Ragnar, c'est les plus beaux instruments, c'est là. Ces femmes, elles ont quoi? Elles ont une guitare et elles ont deux baguettes. Et elles jouent de la batterie au sol, sur les tuyaux. Et petit à petit, on monte vers ça pendant qu'ils nous raconte l'histoire de cette internationale situationniste congolaise. C'est fascinant. C'est vraiment fascinant. On est scotché, on ne peut pas bouger, on veut arriver à la chanson. Et puis là, c'est toute la question coloniale qui est posée. Il le dit à un moment très justement. Il dit faire partir le colon, c'est très bien, mais son système reste et il fallait le détruire. Et c'est résumé. C'est vraiment dit avec des mots très très simples, mais ça donne toute la dimension du problème. Enfin, vraiment, si vous pouvez rattraper cette, je sais que ça ne dure pas très longtemps.
Jusqu'au 23 octobre.
Voilà. Voilà, mais surtout ne la ratez pas, c'est à l'espace Écureuil, et puis ne ratez pas non plus si vous allez au printemps de septembre à Toulouse, le pavillon blanc de Colomiers, qui est à la fois médiathèque et centre d'art, où on a fait, il y a trois artistes.
Vous êtes en train de me fourguer un post-scriptum très long là.
Non, mais allez-y. Allez-y, parce qu'ils ont travaillé, chacun a travaillé un pan de mur, dessiné des fresques murales. Ils ont dessiné, que ce soit Abdelkader Benchama ou bien Claire Brault et Statis Tsemberlidis, qui ont chacun eu un pan de mur sur lequel... Et ensuite, ils ont travaillé ensemble, leurs œuvres se confondent, ils ont réussi à créer un... Oh, je fais du Anaël Pijat, aussi, hein.
Ouais, non, mais un coup de cœur, c'est... Un coup de cœur, elle nous fait six artistes.
Allez-y, c'est tout ce que j'ai envie de dire, allez-y.
Non, mais l'émission de printemps de septembre, on l'a faite il y a 15 jours, mais c'était bien, non, ce post-scriptum. Et puis, il faut rappeler, vous n'avez pas dit que c'est Christian Bernard.
Voilà,
qui officie tout ça,
Bernard,
et c'est
absolument.
Pour ça que c'est bien.
Et c'est pour ça que c'est très bien.
Et oui, ben oui, il y a quand même des
très,
raisons
très,
à
très
tout
bien.
Ça. Bon, Jeune Foundation New York, printemps de septembre, Toulouse, et Centre d'art médiathèque Colomiers, le pavillon blanc.
Merci.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Et nous poursuivons cette dispute consacrée ce soir aux arts plastiques, on l'aura bien compris, en nous rendant à présent au musée du Quai Branly Jacques Chirac pour y découvrir l'exposition de Color Line, les artistes africains, américains et la ségrégation, exposition de le commissaire et Daniel Soutif.
We shall overcome. We shall. Shall overcome someday. I do believe we shall overcome someday. We'll walk.
Quel rôle a joué l'art dans la quête d'égalité et d'affirmation de l'identité noire dans l'Amérique de la ségrégation? C'est la très bonne question posée par cette exposition qui ouvre aujourd'hui ses portes, qui présente pas loin de 150 années de production artistique, donc de la peinture, de la sculpture, de la photographie, du cinéma, de la musique, de la littérature bien sûr, pour mesurer le chemin parcouru. Alors, selon qu'on regarde la bouteille à moitié pleine ou le verre à moitié plein, le verre à moitié vide, on va en parler. Mais pour mettre en évidence en tout cas les grands moments de cette lutte et les grandes œuvres aussi qui sont liées. Yassimine aussi, vous avez les bonnes fiches, c'est
je
à vous.
Je crois. Wow.
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 W-O-W.
Ouais, non, W-A-O-W.
D'accord. Wow.
Wow.
D'accord.
Comme on dit aux États-Unis, c'est vraiment le premier cri du cœur qui sort quand on arrive à la fin de cette exposition, car c'est là une sacrée exposition que donne à voir le musée du Quai Branly, et extrêmement riche, très dense. Très très dense, et c'est très important de répéter que c'est pas une exposition sur l'art africain-américain, mais vraiment une exposition sur la ségrégation telle qu'elle est racontée par les artistes africains-américains, qui soient. La différence est vraiment de taille, parce que c'est ce qui permet d'apprécier pleinement cette exposition, qui est assez atypique par rapport aux expositions qui se font habituellement en France. Elle est atypique pour plusieurs raisons. D'abord, elle est transgenre, puisque ce qui est franchement pas notre fort en France dans les musées, ça, on y arrive assez difficilement de mêler toutes les disciplines. Là, ils y arrivent à merveille. Elle mêle art, littérature, cinéma, musique, photo, enfin comme vous l'avez dit. C'est une exposition, du coup, comme c'est pas une exposition artistique au sens propre, qui ose les reproductions, ce qui est sacrilège dans notre pays, c'est-à-dire les reproductions de gravures, beaucoup de photos, les photos de... moi, je ne savais pas, parce qu'on apprend tout plein de choses, je ne savais pas, par exemple, qu'il y avait eu un pavillon africain, mais de l'histoire africaine des Africains américains à l'exposition universelle de 1900. Donc là, on vous montre des photos qui ont été des portraits d'Africains américains de ces années-là, qui sont c'est des reproductions.
Oui.
C'est
mais non, mais des reproductions dans ce cadre d'exposition-là, d'accord.
Mais c'est pas gênant.
Quand ce sont des reproductions d'œuvres d'artistes dont on n'a pas eu les prêts, une monographie,
oui,
c'est quand même un autre problème.
Mais là, oui, voilà. C'est très bien fait.
Non, c'est très bien fait. J'ai pas encore vu l'exposition, hein, parce que c'était le vernissage hier. Mais
c'est pas gênant.
Le distinguo, il est là sur les reproductions.
Oui, mais là, c'est. Mais sauf qu'en général, quand vous mettez une reproduction.
Non, mais quand c'était George O'Keeffe et qu'on met des reproductions de 2 mètres sur 3 parce qu'on n'a pas les tableaux.
Non, si vous faites une exposition sur Georgia O'Keeffe et qu'il n'y a pas un tableau sur Georgia O'Keeffe, si vous voulez, c'est un peu gênant.
Voilà. Mais là, ça étaye la démonstration.
C'est tout à fait autre chose.
Pour étayer la démonstration. Et puis, elle met en regard des artistes. Ce que j'ai adoré aussi, moi, dans cette exposition, c'est cette manière de mettre en regard des artistes d'hier et d'aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez, s'appelle-t-il, celui qu'on considère comme le premier artiste africain-américain, qui était un esclave, qui s'appelle David Drake. Qui était né en 1801, mort en 1870, et qui signait ses jarres. Des jarres en terre cuite dans lesquelles on a mis des fleurs de coton qui ouvrent l'exposition, et il écrivait à chaque fois remplissez ce noble pot, peut contenir 20 remplissez-le d'argent et il vous le rendra bien. Et c'était la première fois qu'il y avait comme ça dans l'art des Africains, enfin c'est le premier artiste. Et puis c'est mis en regard d'une œuvre de David Hammons, c'est ça, un drapeau unicien. C'est ce regard comme ça entre époque, entre hier, entre aujourd'hui, et puis surtout ça permet de découvrir des artistes dont moi personnellement, franchement, à part Basquiat, Je n'en connaissais aucun. Ah, vraiment aucun.
À ce point-là, bon, il faut dire que, voilà, je l'ai dit, c'est Daniel Soutif, qui est quand même un très grand critique d'art, qui effectivement passe sur les sentiers les plus battus dans ses écrits. Et c'est, moi, je suis très impatient de découvrir cette exposition. Anna Elpija, vos premiers sentiments.
Il est vrai que Daniel Soutif laboure ce territoire depuis de nombreuses années. Et avec quel talent dans cette exposition, qui est vraiment formidable. Parce qu'elle nous montre l'ampleur de... En tout cas, moi, elle m'a montré l'ampleur de mon ignorance sur ce sujet.
Absolument.
C'est un sujet... Effectivement, l'exposition est mixte à la fois d'histoire, société et politique, et c'est fait formidablement bien. Aux États-Unis, ce sujet commence à être connu depuis une trentaine d'années. On le voit en ce moment. Il y a quelques années une grande exposition de Jacob Lawrence qui figure dans l'exposition justement par une reproduction en vidéo de peinture, mais avec la voix de l'artiste qui lit les titres des œuvres, et en fait c'est formidable. Évidemment,
mais il y a aussi des tableaux.
Il y a aussi d'autres tableaux. Il y a aussi
pour
la grande série
Great
Migration. Absolument. En tout cas, cette chose-là est très réussie avec sa voix. Donc il y avait eu Jacob Lawrence au MoMA. Il y a en ce moment, il y avait une grande expo au Whitney de Archibald Motley, et au moment de la réouverture de l'ouverture du nouveau Whitney, il y avait beaucoup d'artistes qui sont dans l'exposition. Et il y a une grande expo Kerry James Marshall qui est aussi dans l'exposition à venir au Met. Donc cette exposition nous ouvre un champ absolument immense et ignoré par ici. Il y a une chose que je trouve assez intéressante, c'est qu'elle se trouve à Branly, au musée Branly.
Jacques Chirac.
Au fond, l'époque est aussi celle du Second Empire. On sort du Second Empire là.
On parle des mêmes années.
The Color Line, c'est plus long, mais en fait, cet espace-là de l'art et de la ségrégation est laissé absolument vacant, et par le musée d'Orsay et par le Centre Pompidou pour ce qui suit. Et au fond, on a l'impression que le musée Branly... Alors, on peut se dire que c'est une manière de ghettoiser à nouveau ce sujet, mais on peut voir aussi la chose d'une autre manière et dire que le musée Branly se réinvente avec une dimension plus universaliste qui est assez intéressante.
Je trouve que c'est une très bonne nouvelle.
Et je trouve ça une très bonne nouvelle aussi.
Il me semble que c'est ce qu'on attend de ce musée quand même depuis le début.
Absolument. Et bon, je voulais dire une autre chose sur la manière dont l'exposition mêle les documents, parce qu'il y a en gros une dizaine de sections, 12 sections, un grand mur de documents quasiment par section. Donc des documents, du matériel audiovisuel et aussi des œuvres. Il y a une chose que j'ai trouvée absolument formidable, et c'est Daniel Soutif en parle mais dans son très beau texte d'introduction au catalogue. On rentre dans l'exposition et une des premières choses que l'on voit après David Drake, The Potter, dont vous parliez, Yasmine, c'est ce drapeau de David Ammons. David Ammons, c'est un des plus grands artistes américains d'aujourd'hui, mais c'est un artiste totalement invisible.
Oui.
Ces œuvres ponctuent l'exposition. Il y en a trois. Il y a ce drapeau, donc qui s'appelle African American Flag, qui est un drapeau américain avec les lignes noires, du rouge et du vert, à la place des couleurs bleu et rouge traditionnelles et du blanc. Il y a une autre sculpture un peu plus loin dans une salle consacrée à la boxe qui s'appelle Air Johnson, qui est une chambre à air dégonflée avec des capsules
Elle
de bouteilles repliées comme des
coris
qui sont dessus. C'est un hommage au boxeur Jack Johnson, qui était un des premiers héros africains-américains que l'histoire ait reconnu. Mais c'est une œuvre extrêmement mélancolique, puisqu'en fait, c'est la mise en cause de cette starisation, si j'ose dire, de ce boxeur. C'est dans le même esprit que les paniers de basket que David Ammons a fait, qui étaient trop hauts pour être
accessibles. Il l'a fait dans les années 80, au moment de la splendeur de Michael Jordan.
Absolument, absolument. Donc il y a cette œuvre-là. Et la troisième, c'est à la fin, une sorte de feu d'artifice qui sort du mur assez en hauteur, avec des tiges de métal qui tombent du mur. Au bout de chacune se trouve un masque africain en bois. Et c'est vraiment comme une explosion. Ce sont des objets trouvés, on suppose, des masques trouvés, c'est pas lui qui les a fait. Et c'est vraiment une sorte de feu d'artifice, en fait, de cette création américaine. Et au fond, cette invisibilité de David Ammons qui joue sur l'invisibilité de cet art et de cette population africaine-américaine est montrée d'une manière extrêmement subtile pour une exposition dont tout le travail est de rendre visible cet art.
Quelques œuvres, Yasmine Youssi, particulièrement à recommander.
Oui, moi, vous savez, parmi les artistes africaines, américaines que je connaissais, moi je connaissais pratiquement que Kara Walker. qu'on avait vu au Palais de Tokyo. Oui, c'est ça, au Palais de Tokyo, il y a quelques années, qui travaille en fait, qui travaille sur des ombres chinoises et qui représente des scènes de la période de l'esclavage. Et quand on voit cette exposition, on voit d'où elle vient, c'est-à-dire que ça ne sort pas de nulle part, que avant elle, il y a eu Aaron Douglas, que avant elle, il y a eu effectivement Jacob Lawrence qui a eu tout ça. Moi, il y a une phrase qui m'a beaucoup marquée, parce que cette expo, elle est vraiment pile poil dans l'actualité, là encore. Il y a une phrase qui m'a beaucoup marquée dans l'exposition qui est reproduite, c'est une phrase de l'un des premiers combattants pour les droits civiques qui est Webb Dubois. Cette ligne de couleur, donc la ligne de couleur, celle qui séparait, cette ligne de couleur sera le problème du 20e siècle. On est au 21e siècle, on est en plein dedans.
On est vraiment
en plein dedans. Quand même, bon, et c'est tous les paradoxes de l'Amérique aussi qui apparaissent là, c'est-à-dire un pays le premier qui a élu un président noir, mais en même temps on n'a jamais eu autant de crimes racistes que ces dernières années. Là, ils viennent d'ouvrir en même temps, Washington vient d'inaugurer le premier musée 151 ans après la fin de l'esclavage, on inaugure enfin le premier musée de l'histoire des Africains-Américains aux États-Unis. C'est quand même hallucinant. C'est Barack Obama qui l'a inauguré. Et puis, il y a une question qui me vient quand je vois ça, c'est que je me dis, à quand une exposition comme ça sur notre passé à nous ? Sur nous en France, c'est-à-dire sur l'esclavage dans les Antilles, dont on ne parle pratiquement jamais, sur les colonies et la colonisation. L'année dernière, je vous assure qu'il existe une iconographie très très riche. L'année dernière, Didier Denynx, chez Webeck, a publié un livre qui s'appelle « L'école des colonies ». Alors, comme souvent chez Didier Denynx, c'est un très court roman. Là, c'est un très court roman illustré, en fait, de toutes les cartes, de toutes les affiches qui sortaient de l'office colonial et qui raconte plein de choses. Et comme le souligne Didier Denynx dans son livre, enfin les colonies qui apportaient l'éducation, c'était que 6% des enfants en Algérie, hein, quand même, qui allaient à l'école française. Il y a toute une iconographie lama qui mérite aussi d'être exposée. Et puis, il y a des artistes contemporains qui travaillent sur le sujet aussi beaucoup.
Mais pour l'instant, le Call Online, le tout dernier mot, Annelle Pigeon.
C'est que maintenant, il faut faire des monographies de tous ces artistes, de Betty Sard, de Beaufort Delaunay, de Cole Scott,
au
de Romary
Bearden,
de Bob Thompson, de William Johnson et de tous ces gens dont on ignore quand même largement
presque tout
l'ampleur du travail.
Ouais. Bon, c'est dire à quel point cette exposition est importante. Je vais y courir après vous avoir écouté. J'en avais déjà envie avant de Color Line, les artistes africains-américains et la ségrégation. C'est au musée du Quai Branly Jacques Chirac jusqu'au 15 janvier. Il y a un catalogue, bien sûr, pour cette exposition qui est coédité par le musée et par Flammarion. Et nous concluons l'émission avec le jeu de la dispute. Lucille Comeau, un rappel du jeu d'hier soir d'abord.
Oui, en lisière de la commune de Moinsartou se trouve un hameau qu'on a appelé le camp de Timgad. À qui était-il destiné? Et la réponse est aux Harkis.
Et puis ce soir, on fait gagner des places de cinéma pour le film Le Cancre de Paul Vecchiali, qui est sorti aujourd'hui, la question.
Alors dans le premier film de Paul Vecchiali, aujourd'hui disparu, Les Petits Drames, c'était en 61, apparaissait l'actrice qui est depuis toujours son idole. Qui est-elle?
C'est le film qui est disparu, c'est pas Paul Vecchiali. La réponse, c'est que vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Et ainsi s'achève la dispute de ce soir. Merci à vous, Annaëlle Pigeon, Yasmine Youssi, Lucille Comeau d'y avoir pris part avec moi. Merci au reste de l'équipe, Virginie Le Duo, Josué Morel et Boris Pinault. Prise de son assurée ce soir par Jean-Richard Dufour. Réalisation Daniel Finot. Je vous donne rendez-vous demain à 21h pour une dispute consacrée à la musique. En compagnie d'Emmanuel Giuliani et Emmanuel Dupuis, à notre affiche Sanson et Dalila, Camille Saint-Saëns, c'est à l'affiche de l'Opéra de Paris. Parsifal de Richard Wagner, c'est un DVD qui sort chez Bel Air, mise en scène Dmitri Tcherniakov, direction Daniel Barenboim, et puis un disque concerto pour deux violons d'Antonio Vivaldi par Giuliano Carmignola et Amandine Beyer chez Harmonia Mundi. C'est le programme pour demain. Avant cela, vos programmes se poursuivent sur France Culture. Dans quelques instants, le journal de la rédaction.